un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Zoé Coupé, notre attachée de production, voulait devenir une grande pianiste. Hortense, psychiatre, Rita dans le bureau aussi, professionnelle de trottinette. Adila, écrivain, parce qu'écrivaine, ça n'existait pas encore. En continuant dans le couloir, il y a Nazia qui voulait être institutrice et Marie-Vonne qui voulait travailler dans une discothèque de San Francisco comme go-go danseuse dans une cage, mais elle n'osait pas le dire à ses parents qui avaient déjà refusé que sa sœur devienne majorette. En dessous, il y a Florent qui a voulu être vétérinaire puis architecte de pont car il avait lu les aventures de Jo, Zette et Joko, la bande dessinée d'Hergé. Zola, lui, n'avait pas d'idée. Et moi, je n'ose pas vous dire la mienne. Mais tous, on s'est retrouvés à France Culture, où il n'y a ni pont, ni cage, mais ça ne manque pas d'écrivaines. Véronique au quatrième fait exception, car après avoir rêvé d'un bon mariage, elle a voulu devenir journaliste voyageuse, et elle l'a fait. Bien sûr, il y a une étude américaine sur la question, recensée par le site Combini, et réalisée sur un échantillon de 2000 personnes, qui indique que seuls 22% des personnes interrogées ont réalisé leur rêve d'enfant, qui d'ailleurs varie selon les âges. Élise Andrieux, elle, voulait être ethnologue, magicienne et chanteuse. Elle est un peu tout ça, comme on l'entend tout de suite dans Les Pieds sur Terre, avec Mon rêve d'enfant, où elle réfléchit à cette question avec magie, poésie et profondeur humaine.
Je m'appelle Isabelle et je vais essayer de vous parler de mes rêves d'enfant, les rêves quand j'étais petite. Moi, je crois que j'ai un peu oublié mes rêves et finalement, en vieillissant, j'ai eu besoin de me raccrocher à ces rêves pour redonner sens à ma vie. J'avais une maîtresse, elle venait des Alpes, mais elle nous parlait toujours de ces vaches des Alpes et en fait, ils étaient mutés toujours très loin, les instits à cette époque-là. Et donc, elle a fait le choix de rester en Normandie, mais elle avait gardé son accent, elle avait gardé tout des Alpes. Donc, elle nous parlait toujours des Alpes. Et je voulais vraiment être maîtresse. J'avais vraiment envie de devenir ce qu'elle était. Enfin, la maîtresse avec sa blouse, qui écrivait au tableau, qui vivait dans sa classe, qui vivait dans son école, qui avait un jardin, une petite tortue. J'adorais tout. Vraiment, j'avais envie d'être cette maîtresse-là. Mes parents étaient commerçants et ils étaient très pris dans leur travail. Et donc, ma maîtresse m'invitait souvent à manger à l'école, puisqu'elle habitait à l'école. Et donc, les mercredis, je déjeunais avec elle. Je me souviens, on mangeait une petite truite et j'avais du mal à éplucher mon poisson. Elle était d'une gentillesse, elle m'aidait tout le temps. Elle m'a tout appris, en fait. Elle m'apprenait le savoir-vivre, enfin, elle m'apprenait plein de choses. Parce que, quand même, moi, je vivais qu'avec les livres, hein. Que mon cartable. Ma sœur aînée a dit toujours, de toute façon, Isabelle, elle est bien qu'avec un cartable. Donc, je crois que ça faisait partie de ma personne, finalement. On est quatre filles, je suis la dernière des quatre filles. Et donc, je faisais faire les devoirs de mes petits neveux et nièces, enfin, voilà. Je jouais à la maîtresse tout le temps. Sauf que quand je faisais mes études, mon papa n'avait pas trop envie que je fasse maîtresse. Et je lui disais toujours, mais si, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment ce que je rêvais. Enfin, et il trouvait toujours des points négatifs sur où il pensait que j'allais pas m'épanouir dans ce métier. Et je sais pas si ça m'a convaincue, mais j'ai suivi ses conseils. Et finalement, j'ai pas fait des études pour faire enseignante. Je suis partie, j'ai fait une maîtrise internationale, transport international, parce que j'aimais bien étudier les langues étrangères. Je l'ai fait, mais j'avais toujours dans la tête que je voulais faire enseignante, enfin maîtresse plus précisément. Et donc, j'ai travaillé dans l'international pendant 8 ans. Et à la naissance de ma première fille, l'idée m'est revenue au galop. Enfin, là, vraiment, j'avais envie de faire ce que j'avais envie. Et là, j'ai repris pour passer le concours de professeur des écoles. J'avais 30 ans. Alors, ça n'a pas été facile, en revanche. Ça a mis 3 ans. Mais je ne voyais pas la difficulté, en fait. Parce que la première année, je ne l'ai pas eu, mon concours. Mais voilà, j'étais tellement contente de pouvoir reprendre que je n'ai même pas vu que c'était compliqué, en fait. Ce que je garde en mémoire, c'est vraiment le jour où j'étais titularisée et où j'ai eu mon poste. Là, j'étais contente de l'annoncer à mon papa et c'était un midi. Je pouvais aller déjeuner encore chez mes parents le midi, de temps en temps, parce qu'ils n'habitaient pas très loin de l'école où j'avais été mutée, justement. Donc, papa, maman assis à côté, et moi toujours à la place à côté du chauffage, comme j'avais quand j'étais petite fille. Maman qui sert la table, parce que c'était toujours maman qui servait. Et j'ai attendu le dessert pour le dire. J'ai enfin pu le dire et être fière de dire à mon papa, ben voilà, ça y est, je suis maîtresse et je suis titulaire et maintenant j'aurai un poste. On était à table et il m'a regardée et je vois encore cette larme tomber et me dire ben c'est bien tu fais ce que tu as envie. C'est, je pense qu'il était vraiment heureux. Il est décédé peu de temps après, mais au moins j'ai eu son accord avant qu'il parte. Un métier qui financièrement, j'ai tout perdu. Financièrement, je suis redescendue vraiment divisée par trois. Enfin, j'ai recommencé à zéro. Et j'avais ma petite fille, mais je faisais vraiment ce que j'avais envie. Donc, ça n'avait pas de valeur. Enfin, c'était pas la même valeur. Je me souviens de la première fois, ma première rentrée. C'était un jeudi. C'était une classe qui était à un étage. Donc je me souviens monter les escaliers. C'était une école assez vieille. Et voilà, une fois que tous les enfants sont assis et prendre mon rôle de maîtresse, ce dont je rêvais depuis toujours. Enfin, j'avais des vrais élèves. Cette fois-ci, je ne jouais plus. Et même si au départ, je n'avais même pas une classe à moi, je faisais 4 décharges de direction, donc c'est quand même hyper compliqué avec 4 niveaux. Mais c'est quand même du bonheur de pouvoir atteindre ce qu'on rêve depuis quand même assez longtemps, depuis toute petite. Voilà, ouvrir la porte et s'installer dans sa classe, c'est... On n'attend plus rien d'autre, enfin, c'est bien. J'espère quand même qu'il y a du monde qui réalise ses rêves. Thank you.
Alors, je m'appelle Eline et j'ai 10 ans. Mon rêve, c'est de devenir actrice, figurer, apprendre un rôle, être un nouveau personnage, avoir une nouvelle peau. Et dans les films, mon nom sera affiché en premier. Comme ça, tout le monde me connaîtra. Mon rêve, c'est aussi de réussir, pas rater ma vie et de me dire pourquoi je me suis lancée dans ça. J'aurais préféré être ça. Des fois, on vit pas la vie qu'on a envie de vivre parce qu'on a envie de plaire à tout le monde.
Mon rêve, c'est d'avoir un skate.
C'est important d'avoir un rêve parce que tu peux essayer de le réaliser et tout, ça t'occupe.
Mon rêve, c'est d'être footballeuse. Ça va être compliqué quand même. Je dois avoir deux métiers, quoi. Parce qu'il n'y a pas... En féminin, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, ça paye pas. Enfin, pas assez, en tout cas, pour bien vivre. Du coup, t'es obligé d'avoir deux travails. Et ça, c'est pas fou.
Moi, j'aimerais bien être danseuse professionnelle. Voilà. Puisque quand je le fais, je me sens bien et puis je m'amuse. Je me sens confiante. Voilà.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réalisé leurs rêves parce que le monde peut être trop méchant. À cause des gens méchants. Ça peut impacter notre pensée. Moi, par exemple, à mon année de 5e, y avait deux filles là. Ils n'arrêtaient pas de nous critiquer. Genre, elles disaient qu'on puait, qu'on était moche, etc.
De toute façon, on s'en fout des regards des gens.
Je comprends vraiment pas pourquoi les gens ils font ça. Et.
Ouais.
Et je trouve ça juste bizarre. Le monde peut être trop méchant.
J'oublierai jamais mon rêve. Jamais. Jamais.
Vous êtes dit que vous allez demander les gens au sujet de leurs rêves. Bon, moi, je n'ai pas particulièrement de rêves. Je vous raconte, j'avais surtout des ennuis à l'école, partout. L'école, j'ai pas aimé ça du tout. J'étais comme le gars des 400 coups. Je sais pas si vous imaginez ce que c'était l'école en 46, en 47, en 48. Vous avez une idée ? Les instituteurs, ils vous tirez les cheveux, ils vous foutez des baffes, ils vous tapez sur les doigts avec des règles, etc. Oui, c'est plus comme ça maintenant, mais les gens, ils savent plus. Il n'y a que les 400 coups pour voir un peu comment c'était. Vous avez vu les 400 coups de Truffaut ? C'est ça, voilà. Et j'ai l'impression d'avoir vécu une vie en noir et blanc. Je faisais des rêves très angoissants. J'étais dans une masse, comme si j'étais quelque part dans un rocher ou dans une masse. Et c'était des rêves. J'aimais pas ça du tout. La sensation d'être un point dans une masse, je sais pas dans quelle masse, de quelque chose, quoi. Dans la terre, je sais pas moi. Pour moi, c'était plutôt un cauchemar.
Je me souviens que je dessinais beaucoup quand j'étais enfant. C'était un petit moment privilégié où je pouvais me mettre à l'écart de mes frères et sœurs, avoir un moment de paix. Bon, je ne savais pas encore vraiment quel adulte je serais. Il y avait 5 enfants, et moi je suis au milieu. Je voyais que ma mère avait beaucoup de travail avec sa famille nombreuse, ses enfants, et que mon père partait au travail, donc je me disais, mais ça c'est difficile de fabriquer une famille, c'est comme une entreprise, donc j'avais pas du tout envie d'aller vers ça. Donc très tôt, mais vraiment enfant, je me suis dit, ça va pas être ma vie. Ils faisaient très bien leur travail de père et de mère, mais 5 enfants, c'est beaucoup. Moi, je me disais, c'est un engagement complet et ma mère ne se réalise pas. Elle a fait des enfants à l'époque où il n'y avait pas de contraception, donc elle n'a pas choisi tous ces enfants-là. Parce que je la voyais triste par moments, je la voyais fatiguée, je voyais qu'elle ne faisait rien pour elle, elle n'avait pas le temps. Alors en fait, j'ai compris que je ne me réaliserais pas en ayant des enfants. Donc j'ai choisi de ne pas faire d'enfants pour pouvoir me réaliser. Mon rêve, c'était de me réaliser. Je sentais très bien que la place des femmes était assignée d'emblée dans toute la société et que les hommes avaient des privilèges qu'ils n'octroyaient pas aux femmes. Donc ça, c'était inadmissible. Je me disais, mais c'est injuste, mes frères pouvaient faire des choses et moi, je ne pouvais pas. Ils pouvaient sortir, les filles devaient faire la vaisselle, c'était automatique, et pas de questions. Et alors, en grandissant, devenant adolescente, pour moi, ça s'est transformé en une espèce de colère. Cette colère, elle a été orientée contre ma mère parce que je lui disais, mais bouge, n'accepte pas ça. Alors quand j'étais enfant, je lui disais, mais pourquoi tu fumes pas? Parce que pour moi, c'était l'image d'une femme qui fume. C'était une femme qui s'imposait, qui était autoritaire. C'était viril, la cigarette. Hein. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui fumaient. Alors bon, elle n'avait pas envie de fumer, donc ça la faisait rire. Mais en grandissant, je lui disais, mais passe ton permis de conduire, mais va voir ta sœur si tu as envie d'aller la voir. Mais elle n'osait plus. Elle disait, oh, c'est pas la peine. Non. Bon, en fait, c'était trop tard. Moi, j'étais très déterminée assez tôt. J'avais aussi une curiosité de ce qui se passe dans les autres pays. On habitait entre 2 pays, entre la France et l'Allemagne. On habitait à Baden-Baden. Et en France, en Lorraine, dans le sud des Vosges. C'est pas très loin, mais enfin, on faisait le trajet plusieurs fois par an, à chaque vacances, puisqu'il était enseignant. Et on passait nos vacances à voyager quasiment... Justement parce que notre père voulait nous faire découvrir la France, puisque nous n'y habitions pas. On rentrait aux vacances dans le village familial des ancêtres, où là, je voyais des gens qui travaillaient avec leurs mains. Moi, j'ai quand même connu des femmes brodeuses dans ma famille. C'était une profession pour les femmes, hein, et elles gagnaient un peu plus que les hommes. Et donc, elles allaient porter leur ouvrage dans des bureaux, chez des sortes d'agents, qui, eux, étaient en relation avec les grands couturiers, et qui, donc, avaient des commandes. Bon, ma tante, elle a fait des broderies pour Yves Saint-Laurent, Dior, Le Chat d'Iran, etc. C'était magique, magique. Je regardais le fil qui passait à travers le métier. J'étais en dessous quand j'étais enfant et je regardais la lumière qui passait à travers le tissu. J'étais assez fascinée par ces femmes seules qui menaient leur barque. Elles ne dépendaient pas d'un homme. J'avais des rêves, mais je commençais déjà à les matérialiser. Je dessinais beaucoup. J'étais déjà attirée par une forme de beauté. La beauté des ouvrages d'art, la beauté d'un édifice, la beauté de la nature, la beauté de certaines personnes. Quand j'étais enfant, je fabriquais beaucoup de collages avec des éléments végétaux que j'offrais à ma mère, que j'avais fabriqués, donc c'était important. Et j'avais pas beaucoup de place pour ça, j'étais sur un appui de fenêtre avec mes petits instruments, la colle, les papiers, tout ça, et je me disais, mais il me faudrait beaucoup plus de place. Il me faudrait une pièce pour moi. Et puis petit à petit, j'ai commencé à réfléchir. Il me faudrait carrément un atelier, avoir une belle lumière, des grandes fenêtres, etc. Puis à côté, un petit endroit pour vivre, mais ça, c'était annexe. Alors ensuite, après le baccalauréat, j'ai fait le choix de vivre librement. Donc, j'ai pas fait le choix de gagner beaucoup d'argent, j'ai pas fait le choix de la sécurité. Bon. Je pense que j'ai réalisé le plus gros rêve, c'est-à-dire être artiste et produire des œuvres. J'ai parcouru pas mal de territoires différents. Tout ça, ça m'a constituée. Mais j'avais l'impression que j'étais toujours entre les deux pays, comme quand j'étais enfant, entre la France et l'Allemagne. Mon père a été déporté à Dachau, dans le sud de l'Allemagne, à côté de Munich. En fait, ma famille a été très profondément marquée par la guerre, par la déportation dans des camps en Allemagne. Bon, mon père en est rentré, il était résistant. Il a commencé à nous parler de la déportation lorsque mes frères, sœurs et moi étions adolescents. Il avait un fil très décousu, le peu de choses qu'il mangeait, l'ouverture des camps à la fin, enfin bon, il nous a tout raconté. C'était très très lourd, d'où mes cauchemars. Je pense qu'avoir été informé à propos de l'horreur dont l'être humain est capable, ça vous met une barrière, une limite. L'horreur existe, il faut la tenir à distance. C'est-à-dire la guerre, l'horreur, le crime, etc., c'est la limite de l'humain qui c'est à l'opposé du rêve. C'est l'opposé du rêve. C'est la déconstruction de soi. C'est la destruction. Mon père a eu un cheminement très très résilient. Il est rentré de déportation, il avait 20 ans. Hein. Il est devenu enseignant, les premiers postes étaient dans les Vosges. Il a eu tout de suite ses enfants et là il a compris que économiquement ça allait être difficile parce que la paye d'un enseignant c'était pas beaucoup et en plus à l'époque ils étaient secrétaires de mairie. Il avait un collègue qui lui a dit que lui avait obtenu un poste en Allemagne dans les forces d'occupation de l'OTAN qui empêchait le réarmement de l'Allemagne. Donc lui a postulé, après ce qu'il avait vécu dans les camps de concentration allemands, il a demandé un poste en Allemagne parce qu'il savait qu'il y avait des avantages économiques, un logement de fonction, etc. C'était courageux. Il était inscrit à des associations d'amitié franco-allemande. Il apprenait l'allemand. Il nous avait inscrits à des cours d'allemand. Et puis, il nous encourageait à avoir des petits camarades de jeu allemands dans le quartier, etc. Il ne nous a pas éduqués dans la haine de l'allemand. Il ne se positionnait pas en victime. Et il a vécu jusqu'à 97 ans et demi. Donc, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc, je ne sais pas s'il a réalisé son rêve, mais enfin, il a eu un parcours de vie assez rare quand même, hein. Avec une déontologie, des valeurs, bon, tout ça, il nous l'a transmis, c'était très important. Lorsqu'on est très âgé, on a de moins en moins de possibilités, mais on a encore le rêve. On peut toujours rêver. C'était Mon rêve d'enfant, un reportage de Lise Andrieux réalisé par Anne-Laure Chanel et mixé par Dali Yaha. Merci à Isabelle, à Hélène et Hélène, à Maxence Alus, à Chloé et à Hélène Taquet, l'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Zoé Coupé. Et notre stagiaire, c'est Hortense Martin.
I don't miss the world, not the way it was. I can't get there. Try to think of it, always at a loss. I can't get there. All of your lonesomeness kept in your wallet. Nobody notices, baby, you got this. I'll still be here when you come back from space. I will listen for you at the door. Take forever off anytime you want. I'll save your place. If anybody asks, I'll say you're coming back. We'll just have to wait. Sometimes I wanna drive around and find you and act like it's a random thing. I always wonder if you ever feel like I do, but are the chances of this happening? I'm not over it, don't know what it is. I can't get there. Something's wrong with me, like it always is. I can't get there. All of your lonesomeness kept in your wallet. Nobody notices, baby, you got this. Everything's orchestrated, follow the arrows. Let's meet where we used to in Alphabet City. I'll still be here when you come back from space. I will listen for you at the door. Sometimes I barely recognize this place. When you're with me, I don't miss the world.